L'évangélisation dans le monde moderne. Une émission proposée par Monseigneur Marc Haillet.
Bien, nous avons insisté dans les deux dernières catéchèses sur le cœur de l'évangélisation. On a dit la substance ou l'élément essentiel du contenu de l'évangélisation. Nous sommes au chapitre 3 hein, de cette exhortation apostolique « Evangelium Nuntiandi ». Et nous avons dit que c'était la proclamation de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous sauver. Nous avons insisté en effet avec le pape Paul VI dans ce numéro 27, où il nous dit que le centre du message est le salut en Jésus-Christ, qu'il ne s'agit donc pas simplement d'un salut immanent dont nous serions témoins, qui ne prendrait en compte que les réalités temporelles et les combats temporels légitimes des hommes sur la terre. Mais un salut qui déborde, dit-il, toutes ses limites pour s'accomplir dans une communion avec le seul absolu, celui de Dieu. Donc salut transcendant, salut eschatologique, qui certes a son commencement sur la terre, mais qui s'accomplit dans l'éternité. Ce qui permet au numéro 28 au pape Paul VI de nous dire que cette proclamation de l'Évangile est faite sous le signe de l'espérance, comme disait le pape Benoît XVI dans sa belle encyclique « Spes Salvi », « Sauvé par l'espérance » ou « Dans l'espérance », la grande espérance, qui est une vie éternelle qui dépasse largement les limites de notre vie terrestre dans lesquelles nous sommes parfois enfermés dans cette culture que Jean-Paul II caractérisait d'immanentiste, fermé à la transcendance, et qui fait d'ailleurs certainement pour beaucoup leur malheur sur la terre. Nous sommes donc appelés à la vie éternelle. Rappelez-vous le dialogue initial du baptême. Que demandez-vous à l'Église de Dieu ? La foi. Et que vous procure la foi ? La vie éternelle. Voilà l'espérance que l'annonce de l'Évangile, l'annonce du kérigme, de la mort et de la résurrection du Christ, qui a vaincu la mort précisément, nous apporte. C'est très important parce que cela répond à, j'allais dire, l'aspiration la plus profonde de l'homme. D'où je viens, où je vais. Ma vie n'aurait pas de sens si elle se terminait dans un trou ou dans un crématorium. Nous allons bien au-delà. Le Seigneur nous a montré un chemin qui dépasse infiniment les limites de ce que nous pouvons même imaginer, mais auquel nous aspirons. L'immortalité de l'âme était déjà partagée par les philosophes grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ. Platon croit en l'immortalité de l'âme. Mais en établissant une sorte de dualisme entre le corps et l'âme, parce que dans la mentalité grecque, l'âme est spirituelle, donc elle est bonne, le corps est matériel, donc il est mauvais. C'est ce qu'on appelle le manichéisme ou le manichéisme, quelle que soit la manière dont on le prononce. Jésus nous a montré que l'homme qui est fait de corps et d'âme, comme dira le Concile dans la constitution pastorale Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps, l'homme est un de corps et d'âme. Perse una, comme on dit, qui est l'une des étymologies latines du mot personne, qui est une par soi, de corps et d'âme. Donc ça veut dire que l'espérance que nous avons, c'est pas seulement la vie éternelle pour notre âme, qui est immortelle, mais aussi pour notre corps, qui est mortel, précisément. Et qui peut nous donner cette certitude que nous sommes faits avec notre corps pour la vie éternelle, sinon Jésus lui-même, le seul qui est revenu de la mort. Lui seul dont nous proclamons précisément qu'il a vaincu la mort. Le troisième jour, il est ressuscité, il est apparu à ses apôtres, sans doute à des témoins privilégiés qu'il a choisis, pour porter cette nouvelle à travers le monde et qui a traversé l'épaisseur des temps, l'épaisseur des nuits, l'épaisseur des mondes, comme dirait Peggy dans son Porche du mystère de la seconde vertu, n'est-ce pas, cette œuvre poétique magnifique qui est consacrée à l'espérance. Le pape Paul VI, en effet, nous dit que l'évangélisation ne peut pas ne pas contenir l'annonce prophétique d'un au-delà, vocation profonde et définitive de l'homme, à la fois en continuité et en discontinuité avec la situation présente, au-delà du temps et de l'histoire, voyez, au-delà de la réalité de ce monde dont la figure passe, et des choses de ce monde dont une dimension cachée se manifestera un jour. C'est ça qu'il faut comprendre lorsque le Christ ressuscite dans le tombeau, dont personne ne peut être témoin, car au moment où Jésus ressuscite avec son corps, qui a été déposé inanimé dans le tombeau, dans la nuit pascale, donc, comme nous le célébrons chaque année, eh bien, il sort de l'espace et du temps. Il échappe aux catégories qui sont les nôtres, dans lesquelles nous sommes immergés, qui sont celles de l'espace et du temps. Il entre donc dans un nouveau mode d'exister pour l'homme dont nous n'avons pas idée précisément, tant que le Christ ne l'a pas accompli, expérimenté et ne nous l'a pas révélé. Il est entré par son corps dans l'être même de Dieu, la dimension divine de l'existence et donc de l'existence humaine, qui nous échappe. Et de fait, là, chaque fois que Jésus apparaîtra miraculeusement à ses disciples, à ses apôtres, pendant ces 40 jours qui vont séparer la résurrection de l'ascension, eh bien, il est là au milieu d'eux, sans procès, sans déplacement local. Il disparaît de devant leurs yeux. À la fois, il montre ses stigmates et ils ne le reconnaissent pas avec les yeux de la chair. Vous voyez, pour bien montrer que ce mode d'exister divin du corps ressuscité du Christ auquel nous sommes appelés nous échappe, mais c'est l'espérance dans laquelle la proclamation du kérigme place les hommes d'aujourd'hui, comme d'hier et de demain.